Phil PM. Opinion.
Mais des fois, on tourne les coins ronds, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'irresponsable là-dedans. Il faut que les gouvernements posent des gestes.
Voici Fred Savard.
Ouais, chronique de Fred Savard, chronique de Fred Savard. Ça devrait être la chronique du beau Fred.
Bon.
Voilà.
Oui. Il paraît.
C'est ta plus grande qualité, semble-t-il.
Ça, c'est dégueulasse.
Non, non, mais t'es peut-être très, très, très beau. Ta radio, là, ils savent pas jusqu'à quel
non.
point. Là.
Mais j'espère que c'est pas ma principale qualité, si c'en est une. Je ne sais pas. C'est moi, tu répètes ce que les gens disent, en fait, quand tu dis, tu parles de ça. Là,
en fait, c'est la première qualité. C'est peut-être pas la plus grande, c'est la première.
Comment va ta santé cardiaque, Dan?
Quand je parle pas de la DPJ, elle est bien correcte.
OK. Parce que je te fais entendre tout de suite cet extrait. Tu vas voir, j'espère qu'elle va bien, ta santé.
Il y a clairement un vieillissement de la population et la demande est croissante. Et malgré le fait qu'on tente de faire de plus en plus d'interventions, on réussit pas à épancher, là, si on veut, la quantité de patients sur la liste d'attente. Donc, ça entraîne des délais malheureux. Il y a des gens qui peuvent succomber à leur attente.
Oui, succomber à leur attente, ça veut dire mourir. Alors, c'est le docteur Louis Perrault, c'est président de l'Association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec. Et là, on l'apprenait ce matin, on en a parlé aujourd'hui déjà, j'imagine, ici même. 12 patients décédés en moins de 4 mois. On est comme habitué, je trouve, des fois, à ces cas isolés, qu'on prétend isolés. Mais quand on s'arrête, là, moi, je trouve ça incroyable. 12 personnes au Québec, dans une économie quand même, dans le monde occidental, on n'est pas pauvre du tout, là. En 4 mois, 12 personnes sont mortes parce qu'on a mal géré les ressources au ministère de la Santé, parce que c'est pas une pénurie de médecins, je pense, qu'on vit. Et là, on apprend qu'en 2014, dans le fond, les patients en attente aujourd'hui, c'est 2200 pour seulement les chirurgies cardiaques. Et c'était 700 en 2014. Donc, la situation, malgré la réforme Barrette, qui supposément est extraordinaire...
Malgré ou à cause?
Bon, c'est ça. C'est ça qu'on sait pas, parce que c'est difficile. Moi, j'arrive pas avec des solutions, là. C'est pas ça le point. Mais d'entendre des médecins spécialistes déplorer ça et s'exclure de ça, alors que je trouve qu'ils devraient se garder une gêne, sincèrement, là, parce que ce sont des gens, on a procédé au rattrapage salarial, supposément qui était tellement injuste pour eux. Ça fait quelques années, ça fait 2 ans, là, on l'a oublié, mais j'ai l'impression, on peut pas séparer les deux choses. Et je remets pas en cause le professionnalisme, dis-je, et le sens du devoir des médecins. C'est pas ça que je fais. Puis je sais que individuellement, ce sont tous des passionnés de leur métier, ce sont des gens avec de l'empathie, mais les négociations pour leur rémunération, le côté corporatiste de la chose a fait en sorte qu'aujourd'hui, le salaire des médecins, des 10 000 médecins spécialistes, accapare, à ton avis, combien de pourcentage du budget total du Québec?
Je ne sais pas.
8%. C'est incroyable. Moi, j'en reviens pas, là. Quand on regarde froidement ces chiffres-là, 8% du budget s'en va pour payer des médecins spécialistes. Et malgré ça, on a 12 personnes dans les 4 derniers mois qui meurent sur une liste d'attente, incapables d'être soignées. Là, on dit qu'il y a toutes sortes de raisons, entre autres annulation des chirurgies après 13h30 pour éviter les heures supplémentaires dans l'après-midi.
Des fois, bon. Il manque un local, des fois, manque une machine.
Et je suis persuadé que tous ces gens sont bien intentionnés. Je veux pas jeter la pierre individuellement aux médecins spécialistes. Puis je sais, il y a des gens...
Quelque chose que ça fait longtemps qui est commencé. Si on se rappelle, il y a Mme Marois qui est contente de la loi sur la laïcité.
Oui, parce
elle
que
se réclame
souvent, oui.
que c'est un peu grâce
oui.
à
Oui,
c'est un peu grâce à elle aussi, la situation médicale. Elle y a participé sous le gouvernement de Lucien Bouchard. C'est elle qui a envoyé les médecins à la retraite. Là.
Oui, tout à fait.
Puis là, on manque de médecins.
Oui, on manque de médecins. Est-ce qu'on manque de médecins? C'est ça qui est difficile. Et ça prend des spécialistes. Puis, tu sais, la façon que pour décortiquer tout ça, parce qu'on ne sait pas s'il manque de médecins. On a peut-être l'impression aussi que c'est les ressources qui sont mal gérées. Gaétan Barrette disait qu'il y avait trop de bureaucratie, c'était pas assez centralisé, entre autres. Et là, après ça, là, on a une nouvelle ministre de la Santé qui va sûrement faire l'inverse parce que c'est pas le même gouvernement, puis on veut imprégner sa marque. Mais c'est difficile. À un moment donné, c'est lassant d'essayer de comprendre, nous, les citoyens,
parce qu'on fait des allers-retours.
Exactement. Et pendant ce temps-là, la réalité, c'est pas des gens qui sont sur une liste d'attente pendant 6 mois. Là, on parle de gens qui meurent parce que l'organisation du système de santé a pas été capable de faire en sorte que ces gens-là soient soignés au système public. Parce qu'évidemment, il y a toujours des gens à l'Institut économique de Montréal qui vont vous dire, allez au privé, puis prenez-vous une assurance.
Oui,
bon,
mais non. C'est toutes affaires qui coûtent cher. Alors, si c'est pas les soins qui coûtent cher, c'est les assurances qui coûtent cher.
Et les mieux nantis. Et les mieux nantis peuvent, évidemment, se les payer et pas le commun des mortels. Cela dit, je veux être clair, je ne remets pas en cause le professionnalisme des médecins spécialistes. J'en ai même à l'époque où il y avait les négociations avec Diane Francoeur, entre autres, et qui a fait le rattrapage. Il y a des médecins, moi, qui m'écrivaient pour me dire, hey, on est mal à l'aise. Vraiment de l'attitude de notre corporation, on trouve qu'on est trop payé. J'ai même des médecins qui me disaient, quand je reprends une deuxième portion de salade de fruits de mer, j'ai moins faim. Il y a des médecins qui étaient rendus là, pour te dire comment ils étaient mal de tout ça.
C'est épouvantable.
Ouais. Et là, c'est drôle parce que tu parlais de Pauline Marois, c'est François Legault. Parce que rappelez-vous de François Legault, pendant la dernière campagne électorale, qui disait, si on gagne les élections, nous allons revoir la rémunération des médecins, on va baisser ça parce que ça n'a pas d'allure. Évidemment, c'est une promesse qui est tombée à l'eau.
Le Collège des médecins, c'est un très, très gros lobby.
Oui.
Et... je ne parle pas de M. Barrette, je parle du lobby.
Non, ça, il n'y aura pas là.
Non,
pas avec moi, Dan. Pas de blague sur l'apparence physique des gens. Mais c'est François Legault, en 2003, qui a parti, dans le fond, le bal de revoir la rémunération des médecins. Quand il était ministre de la Santé, c'est lui qui a signé une entente que le gouvernement allait analyser la rémunération des médecins du Québec pour qu'elle soit équivalente à ce qui se fait ailleurs au Canada. Évidemment, il y a des gens qui ont dénoncé...
Analyser, c'est une chose, mais après ça, négocier avec un gros lobby, c'est une autre chose. L'autre lobby, il lâchera pas. Là,
et on a eu aussi un gouvernement libéral de médecins. On avait un premier ministre médecin, on avait un ministre de la Santé médecin. Donc, une espèce de solidarité de classe, peut-être, qui a fait en sorte qu'on a favorisé beaucoup les médecins spécialistes. Et je comprends que c'est difficile pour eux individuellement de faire non, non, non. Moi, je veux pas être payé autant que ça. On parle d'un salaire moyen à peu près de 440 000 $ les médecins spécialistes. Puis là, ça dépend des spécialités. Mais c'est sûr qu'individuellement, c'est difficile pour eux de dire non. Moi, je veux qu'une partie de mon salaire aille pour l'accès aux soins. Ça fonctionne pas comme ça. On le sait. Mais je trouve que, ils devraient à l'interne revoir peut-être la façon qui se comportent en tant que corporation, parce qu'aujourd'hui, je trouve ça vraiment malaisant que ces gens-là se prononcent sur la place publique et excluent la part du gâteau qu'ils prennent dans le système de santé. Et cet argent-là ne va pas ailleurs. Et là, on en paie un peu le prix. En tout cas, il y a des gens qui en paient le prix de leur vie. Moi, ça me dépasse, sincèrement.
Ça devrait et pendant ce temps-là, être des médecins qui décident de la rémunération à ce moment-là.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est des choses, parce qu'une fois que c'est fait, ça se défait pas comme ça en criant ciseaux.
Puis je trouve ça d'autant plus déplorable que le ministre Legault avait promis d'y voir et il l'a pas fait, alors qu'il se prétend être un gouvernement qui niaise pas avec la POC. On l'a vu avec la loi sur la laïcité, qui est une loi, bon, qui est tout à fait incomplète, parce qu'on aurait pu aller chercher de l'argent aussi sur les taxes foncières des communautés religieuses, tout ça. Tu sais, je trouve qu'on s'occupe pas des vraies choses quand on prétend le faire. Et pendant ce temps-là, ben, on manque de ressources pour d'autres choses, dont, ça c'est mon deuxième sujet, les matières recyclables. 50%, on l'apprend aujourd'hui, près de 50% des matières recyclables vont aller à l'enfouissement. C'est-à-dire qu'elles sont pas recyclées.
Ça, je trouve ça épouvantable, parce qu'à chaque fois qu'on dit que les grosses compagnies, les sables bitumineux, tout ça pollue, on se fait répondre, il faut commencer par faire notre effort individuel. Oui. C'est tout le temps ça, leur argument. Oui. Là, on fait notre effort individuel de recycler, et ils nous refoutent ça dans les poubelles. Donc, ça vaut la peine, de se forcer, là.
Oui, tout à fait. Et en fait, il y a plusieurs problèmes. Il y a une chose qu'on a oublié pendant longtemps, c'est que, collectivement, au Québec, on envoyait une partie de ce qui allait au recyclage dans les pays d'Asie.
Ah, là, ils nous les retournent.
Pour que eux, en fait, on savait pas ce qu'ils faisaient avec, on voulait pas le savoir, mais on se donnait bonne conscience. Les autorités, je parle pas des citoyens, mais les gens en place, parce qu'on n'a pas, on n'est pas capable de tout recycler. La technologie est là, oui, mais ça coûte de l'argent pour recycler les matières plastiques, carton, tout ça. Et on n'est pas capable de tout recycler. Alors, on en envoyait une partie. Le pire du triage, là, ce qui se recyclait le moins, on l'envoyait en Chine, entre autres, et dans certains pays d'Asie. Et là, ils ne le prennent plus, cette matière-là. Alors, on n'a plus de place. Donc, on est pogné avec. C'est nos déchets à nous de recyclage.
C'est nos déchets, on devrait les recycler nous-mêmes.
Et là... on n'est pas capable, et là, on est obligé de les enfouir. Et promenez-vous près de l'éco-centre sur la 40, au coin d'Iberville, l'éco-centre, le gros, à côté de la TAU, là. Regardez les palettes et les ballots de matières recyclables qui sont en train d'être accumulées à l'extérieur. C'est hallucinant. On la voit, la pollution. Et là, je sais que quand Dominique Champagne a fait son pacte les gens trouvaient encore les artistes qui nous disent quoi faire. Mais là, à un moment donné, il y a nos choix, puis c'est...
Il y a deux choses.
Il y a des gens qui ont dénoncé ça. Oui, les entreprises, je pense, doivent faire leur part. Et je pense que il devrait y avoir des lois, entre autres, pour tout ce qui est plastique, d'usage unique. On devrait l'interdire.
C'est une grosse part, le plastique.
Et à usage unique. Donc, les emballages. Tu sais, on fait la paille. Les gens rient de ça, là.
Pourquoi? On parlait des bouteilles d'eau tantôt.
Les bouteilles d'eau, mais c'est une hérésie. On devrait interdire les bouteilles d'eau. Carrément. Moi, je le vois dans le recyclage à côté de chez moi. Les gens, là, recyclent 48, 72 bouteilles, petites bouteilles de plastique par semaine. Ça s'en va à l'enfouissement, là.
Moi, j'ai une gourde.
La SAC refuse que les bouteilles de vin soient consignées. Moi, pour moi, ça me dépasse qu'une société d'État qui devrait être au service de tous les Québécois refuse de consigner le verre qui se retrouve au recyclage. Et ce que ça envoie, ce problème-là, en plus, envoie le signal aux citoyens, arrêtez de recycler, ça s'en va. Ça s'en va dans les déchets, anyway. Fait que les gens, ça va être difficile après ça de dire aux gens que c'est important de recycler.
C'est important.
Ben, tout à fait.
C'est pourquoi je me forcerais.
Tout à fait. Puis je pense qu'il faut, changer nos habitudes. Puis un autre exemple aujourd'hui qui est sorti dans les médias, c'est les 50 000 tonnes de déchets qu'on a trouvé au lendemain du déménagement à Montréal. C'est qu'il va falloir aussi individuellement changer complètement notre mentalité, notre façon de voir la consommation d'objets. Ça n'a pas de bon sens. 50 000 tonnes de déchets, divans, chaises, tables, meubles, cochonneries, au lendemain du déménagement.
On déménage tous la même journée au Québec.
Oui.
Ça, là.
Non, mais Dan, c'est pas ça le problème.
Qui comprend pas. Oui, mais ça serait réparti sur l'année.
Il y a 70 000 déménagements à Montréal. Il y a 50 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a presque une tonne par déménagement qui se retrouve sur le bord de la rue. Là, c'est la ville qui ramasse ça. On envoie ça. Bon. Alors, repenser cette idée-là de recycler nos objets, en acheter moins, en produire moins. On part de loin. Et je trouve ça important. Et je pense pas que nos gouvernements devraient être des leaders. On devrait pas sortir dans la rue puis obliger nos gouvernements à nous aider là-dedans. Je trouve que ça devrait être les politiciens, les politiciennes qui soient proactives. Mais encore une fois, on nous dit que la transition du pétrole, on peut pas faire la transition trop vite parce que on est dans un système où, bon, et là, ça va prendre encore 20, 30 ans. Puis pendant ce temps-là, bon, on a des problèmes comme ça qui s'accumulent. Tu sais, on peut parler des pesticides, on peut parler de la disparition des insectes. Je pourrais faire une chronique de 3 heures là-dessus.
Tu penses qu'il y a eu un cancer? Je me pose pas la question sur ce qui passe dans mon corps. Ben c'est voilà. Évident. Tout le monde qui a passé par là se pose la question.
Oui.
Je t'annonce qu'il y en a beaucoup, là.
Oui, tout à fait. Mais sauf que là, tu vois, on dirait qu'on le voit pas non plus, ça. Mais c'est tout ça est global, puis ça devient lourd pour les citoyens. C'est pour ça que...
Ben, c'est de se forcer, puis d'avoir l'impression que ça donne absolument rien.
Oui.
On se fait rire de nous carrément.
Oui.
Ben, ça découvre.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un citoyen peut faire? On sort dans la rue.
Ils se plaignent qu'on est cynique. La population est cynique. D'après quoi?
Le cynisme, il part d'en haut. Moi, j'ai toujours dit ça, le cynisme, il part d'en haut. Oui. Si nos politiciens étaient moins cyniques, les citoyens le seraient moins aussi.
Ça, c'est la vraie théorie du ruissellement, pas l'autre.
Oui, c'est la seule qui fonctionne.
La seule qui t'accepte.
À mon avis. Mais bon, j'ai pas de solution encore une fois. C'est ça qui est fâchant un peu, mais il va falloir vraiment comment faire pour que les choses changent au-delà de signer un pacte. Parce que oui, le pacte, on peut en rire. Tu sais, de refuser une paille quand on va chercher un smoothies à notre crèmerie favorite. T'sais, on peut rire de ça, mais c'est qu'en faisant ça, on s'engage. Ça devient un mode de vie. Ça devient quelque chose de permanent dans notre tête.
C'est à force de faire des gestes. Moi, je me rappelle quand la ceinture de sécurité était pas obligatoire, puis ça a pris du temps. Les gens voulaient pas la mettre. Il a fallu qu'ils donnent des amendes. Puis là, cette heure, maintenant, c'est naturel. Tu rentres dans ton char, mets ta ceinture. Tout le monde fait ça, puis c'est même pas difficile. Alors, j'ai pas de difficulté à imaginer que les gens pourraient simplement être habitués à
réussir. Sauf que la ceinture de sécurité, si tu la mets pas, la voiture d'à côté, le conducteur ne meurt pas pour autant. Là, c'était vraiment un côté personnel, la sécurité personnelle. Mais là, nos gestes ont un impact sur
la collectivité.
Oui, c'est ça. Fait que faut avoir une certaine empathie envers la vie en général, je pense. Je vais aller jusque-là. Je sais que ça sonne cucu, mais...
t'es pas juste beau, t'es philosophe.
Parfois, oui. Mais je sais que des fois, ça rebute les gens, surtout en été, là, parce que les gens veulent relaxer. Mais en tout cas, en attendant, faites attention avec vos matières recyclables et réutilisez-les.
Oui.
Le plus possible.
On veut bien se recycler nous-mêmes, mais il faut que la job à l'autre bout soit faite. Bon.
Oui.
C'est le début du festival d'été demain de Québec. Et puis, Jordan vient nous en parler tout de suite après la pause.
Amenez vos gourdes pour aller au festival.
J'ai toujours ma gourde.
Oui.
Après la pause.